Bien, bonjour à cette promotion de L2. Aujourd'hui, deux parties, j'espère moins d'une heure chacune. Une sur la première partie de l'apprentissage du crawl, des aspects théoriques. Rassurez-vous, il y aura beaucoup d'illustrations, mais il n'y aura pas de vidéo, dans la mesure où la deuxième partie sera consacrée quasiment que à de la vidéo, avec une présentation sur la deuxième partie pratique. C'est-à-dire, en gros, quelle situation on peut mettre en place dans le cadre de l'apprentissage du crawl. Alors, le plan est valable pour. J'ai donné à Olivier un plan donc, qui peut circuler sur la première partie. Et donc, la première et deuxième partie sont dans ce plan-là, puisque la séance a lieu le même jour. Une introduction rapide. Quelques rappels sur la notion d'apprentissage, proposition de l'ouvrage de référence que je vais présenter, la démarche d'apprentissage choisie, les différents paramètres proposés, et ensuite, ce sera la deuxième partie sur la présentation concrète des situations et une conclusion et vos questions, j'espère, riches. Alors, les trois références principales que je vais utiliser. Donc, aucun de ces trois ouvrages ne sont encore disponibles, sauf en version électronique pour le dernier. Mais ces ouvrages sont à la bibliothèque et sont consultables. Je dispose encore de pas mal d'ouvrages du dernier pour ceux que ça intéresse. Alors, à l'origine, vous voyez que ça date des années 90, hein, donc c'est pas récent. J'avais déjà formulé des propositions de l'apprentissage de la technique des quatre nages, et en particulier dans cet ouvrage, là c'est la deuxième édition, mais dès la première édition ça apparaissait, donc en, vous le voyez ici, 18 situations, c'est ce que je vais encore utiliser aujourd'hui, puisque j'ai repris les schémas étaient très très bien faits, hein, ici, mais j'ai repris dans le dernier ouvrage de référence. Ces situations d'une manière un petit peu mieux présentée, et c'est ce que je vais essayer de faire dans la deuxième partie. Alors, quelques rappels sur la notion d'apprentissage, c'est des choses que vous savez par cœur, mais je préfère le rappeler. L'apprentissage consiste en une modification adaptative systématique et relativement durable de la conduite lorsqu'un individu est mis de manière répétitive dans une situation épreuve. Alors, c'est une définition, il y en a beaucoup d'autres. Il y a des définitions de l'apprentissage d'une manière générale, c'est ce que j'ai choisi. Et il y a des définitions de l'apprentissage moteur. Si celle que je préfère, c'est celle de Schmitt, mais je ne vais pas la présenter ici. Je reste sur cette problématique. Donc, je vous présente cette diapo dans laquelle je définis l'apprentissage. Chaque fois que j'utilise un concept, le mieux, c'est de le définir. Je vous laisse éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, la recopier. Je rappelle que les diapos que je vous présente seront disponibles et que dans les diapos, le document que je fais circuler, toutes ces informations sont intégrées. Alors, je vais reprendre point par point les éléments de cette définition. Un apprentissage, c'est quoi? C'est une modification dans le système nerveux. Le système nerveux de certains, comment dire, animaux primaires est directement intégré quasiment à l'identique du cerveau de l'adulte, enfin du système nerveux, pardon, parce que le cerveau, tout le monde n'en a pas, de l'adulte. Le problème étant, c'est que chez l'homme, le système nerveux n'est pas terminé à la naissance. C'est pour ça que le bébé n'est pas autonome, à la différence de certains animaux qui sortent du ventre de leur mère et qui sont capables immédiatement de réaliser un certain nombre d'actions. Et donc, l'apprentissage consiste à intégrer à l'intérieur du système nerveux et en particulier du cerveau des éléments qui n'étaient pas présents antérieurement. Et c'est pour ça qu'on parle d'une modification. Et cette modification en accroissement, c'est-à-dire il y a un plus par rapport à ce qu'on savait faire. Je ne sais pas nager, j'apprends à nager, eh bien, mon système nerveux et mon cerveau vont intégrer cette nouvelle capacité de savoir nager, de savoir faire du vélo, de savoir faire tout un tas d'éléments en accroissement. Donc c'est ça le principe de l'apprentissage. L'apprentissage est adaptatif, ça veut dire qu'il choisit un certain nombre d'éléments qu'il va intégrer et il est capable d'adaptation. Il est systématique, c'est-à-dire que quand j'apprends quelque chose de nouveau, une langue, je ne savais pas parler anglais, je sais parler anglais, et bien maintenant, à l'intérieur de mon cerveau, j'ai la possibilité de faire appel à ces nouvelles connaissances. Relativement durable. Alors relativement pourquoi? Ben parce que certains apprentissages sont relativement, par exemple, j'ai appris le chinois quand j'étais tout petit et puis j'ai oublié, ben oui, parce que c'est pour ça que c'est relativement durable, c'est-à-dire certains apprentissages sont stables complètement et d'autres ne le sont pas totalement, donc il faut les réactiver pour pouvoir les utiliser. Et donc, c'est quoi ? Une modification de quoi ? Du comportement. Je préfère utiliser le concept de comportement du concept de conduite. Je rappelle que la différence, c'est que le comportement, c'est la manière dont l'individu agit, alors que la conduite, c'est ce qui explique pourquoi il agit. Hein, donc la conduite, je ne parle pas de la conduite automobile, bien évidemment, mais la conduite, c'est l'explication aussi du comportement. Comment on modifie cet apprentissage? Eh bien, comment on modifie donc le système nerveux pour apprendre? Eh bien, lorsqu'un organisme est mis de manière répétitive dans une situation épreuve, ça veut dire qu'il faut solliciter l'organisme pour qu'il puisse apprendre. Alors, quelques rappels toujours théoriques sur l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur modifie les compétences d'un individu après une expérience, hein, c'est à peu près ce que je viens de dire. Quatre spécificités caractérisent cet apprentissage. L'enrichissement du répertoire moteur. Je ne sais pas nager, un jour je sais nager. Je ne sais pas faire de vélo, un jour je sais faire du vélo. La stabilité et la précision des nouvelles actions. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait du vélo, je remonte sur un vélo, je sais faire. Ça fait 2 ans que je n'ai pas skié, je remonte sur les skis, je sais faire. Plus ou moins bien, mais je sais faire. Ensuite, la transférabilité, c'est-à-dire ce que j'ai appris à la piscine de Mont-Saint-Aignan, je suis capable de le réaliser à la piscine de Rouen. Et l'objectif est de réaliser une meilleure performance, puisque un des objectifs de l'apprentissage, c'est d'être capable de faire des choses que je ne savais pas faire préalablement. L'apprentissage moteur en tant que processus psychologique n'est pas directement observable. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas capable, en vous regardant, là maintenant, de savoir quels sont ceux qui nagent bien le crawl ou ceux qui nagent bien la brasse. Ça veut dire que l'apprentissage est à l'intérieur de votre système nerveux, à l'intérieur de votre cerveau, et je ne suis pas capable de l'observer. C'est pour ça qu'on considère que l'apprentissage est une activité psychologique. Son évolution ne peut se réaliser qu'à partir de ses produits, c'est-à-dire des modifications dans le sens du comportement du sujet, donc de sa performance au sens large. En d'autres termes, comment je mesure, lorsque j'apprends à un élève à faire quelque chose, comment je mesure les effets de ce que je réalise avec lui, eh bien, sur ce qu'il est capable de faire. Donc, il ne savait pas réaliser un 25 mètres en crawl. Maintenant, il est capable de réaliser un 25 mètres en crawl. Eh bien, c'est grâce aux effets de ces apprentissages que je suis capable d'évaluer le travail que j'ai réalisé. Voilà, c'est tout. Vous voyez que je ne vais pas très très loin sur les rappels sur la notion d'apprentissage, mais il me semblait important pour pouvoir calibrer et référencer les propositions que je vous fais, donc de faire ces quelques rappels. Alors là, je vais présenter maintenant cet ouvrage et en particulier le deuxième chapitre, puisque le deuxième chapitre traite de l'apprentissage du crawl, nage, départ, virage. Je ne traiterai ici que de la nage. On voit que ça fait référence à un certain nombre de fiches techniques qui sont proposées. Cet ouvrage présente 140 fiches techniques, puisqu'on a des fiches techniques sur la correction technique de la nage, du départ ou du virage, uniquement en crawl, puisque c'est un ouvrage qui est consacré au crawl. Dans ce deuxième chapitre, l'apprentissage du crawl, je vais présenter certaines fiches pratiques qui sont présentées comme ici. Vous voyez, par exemple, On est sur la situation 15, vous la verrez tout à l'heure en vidéo, grâce à Florentin qui a réalisé les séquences sur mes propositions. Eh bien, vous voyez que dans chacune des situations, proposition alternée, inspiration costale, rattrapé arrière, inspiration tous les trois passages, donc on a une illustration et on a un certain nombre d'éléments qui sont présentés dans chacune des fiches présentant les différentes situations. Alors, quelle démarche d'apprentissage j'ai choisie? Eh bien, évidemment, une des questions à poser, c'est à quel moment aborder concrètement l'acquisition des techniques de nage? En gros, est-ce que je commence par apprendre la brasse ou le crawl? Est-ce que je commence par apprendre la technique du crawl avant la coulée ventrale ou après, etc., etc. Donc, évidemment, les questions peuvent se poser. Alors, l'acquisition concrète des techniques de nage devra se réaliser après des acquisitions générales fondamentales, ce qu'on appelle des prérequis. Quels sont ces prérequis? Vous les connaissez tous, mais je les rappelle. La résolution des relations au milieu aquatique, les problèmes de flottaison, les problèmes d'équilibre et d'équilibration aquatique, je différencie bien flottaison et équilibre, les problèmes de respiration, les problèmes de prise d'information, les problèmes de réduction des résistances, mais je vous rappelle qu'à vitesse lente, les résistances sont très faibles. Donc le problème des résistances est quelque chose qui est quand même peu abordé dans la problématique du débutant, sauf quand il pousse au mur en étant complètement à l'oblique ou quand il relève la tête en plongeant par exemple. Les actions propulsives générales, c'est-à-dire savoir déplacer son corps en réalisant des mouvements de bras, des mouvements de jambes, donc tout ça doit être... mais également au problème d'interrelation et de coordination des différents paramètres entre eux. Ça veut dire quoi? La relation entre l'équilibre et la respiration, la relation entre l'équilibre et la propulsion, la relation entre la propulsion et la réduction des résistances, et aussi la capacité de réaliser des mouvements de bras et des mouvements de jambes. Donc, ça n'a pas de sens d'apprendre le crawl, d'apprendre la brasse tant qu'on n'a pas résolu un certain nombre de problèmes, ce qu'on appelle les prérequis. Donc, bien évidemment, la situation que je vous présenterai tout à l'heure est très artificielle, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui sait déjà réaliser le crawl et qui va réaliser les situations pour cette présentation. Mais il est évident qu'on est dans une problématique dans laquelle l'apprentissage d'une nage, quelle qu'elle soit, doit être au service, je dirais, de l'acquisition du savoir nager. Vous avez quand même, avec Olivier, des gens bien placés pour cette problématique du savoir nager. La technique du crawl et la technique de la brasse est au service du déplacement aquatique. Et donc, on arrive après ces prérequis, c'est très important. Alors, je voudrais faire un tout petit rappel, parce que vous ne le savez sans doute pas, que si je reprends les différentes formes d'équilibre, dans l'eau, on peut être en équilibre ventral, en équilibre dorsal, en équilibre costal. C'est ce qui est présenté ici. Les actions des jambes, elles peuvent être des actions de battement, des actions de pédalage, des actions d'ondulation, c'est-à-dire des mouvements prolongés au-delà des hanches, ou des actions de poussée, du type ciseaux de brasse. Les actions temporelles des jambes, elles peuvent être simultanées, c'est-à-dire les deux jambes à la fois, ou alternées, une jambe après l'autre. Les actions spatiales de bras, elles peuvent être limitées, c'est-à-dire uniquement type mouvement de brasse, traction, ou bien traction plus poussée, c'est-à-dire dans les trois autres nages. Les actions temporelles des bras, elles peuvent être simultanées, c'est le cas du papillon ou de la brasse, ou alternées, et les retours de bras peuvent être sous-marins, c'est le cas de la brasse, ou aériens. Donc, si je croise ces six variables et que je fais un tableau, eh bien, il y a 192 solutions pour pouvoir nager. C'est-à-dire que je peux être sur le côté, Je peux être avec des mouvements simultanés, je peux être avec des mouvements alternés, avec des retours aériens, etc. Or, le crawl, cette case-là, c'est une des 192 solutions que je présente sur ce tableau. Et la brasse en est qu'une, le papillon en est qu'une, et le dos crawlé en est qu'une. Alors, le règlement de la nage libre permet de faire plein de choses. Mais le crawl, je rappelle qu'il y a une différence fondamentale entre la nage libre, qui est le règlement de la FINA, je me déplace dans une nage qui est libre, et je peux même changer en cours de route, ce que certains oublient. Et quand je fais du 4 nages, la nage libre, c'est autre chose que les règlements des trois autres nages. Donc, la nage libre est quelque chose de relativement libre. Mais le crawl ou le dos crawlé sont techniquement une solution dans laquelle, si on reprend ce tableau, eh bien, le crawl est une nage ventrale qui est alternée, qui a un battement de jambes. Au niveau des bras, c'est des actions alternées avec des retours aériens et un trajet complet, c'est-à-dire traction plus poussée. Donc vous voyez que le crawl représente une des 192 solutions simplement sur ces paramètres que j'ai présentés ici. On pourrait en regarder d'autres par rapport au placement de la respiration ou autre. Donc vous voyez que le crawl est une des très nombreuses solutions pour se déplacer dans le milieu aquatique. Alors, quelle démarche de l'apprentissage du crawl j'ai utilisée? Eh bien, j'utilise une démarche qui m'est personnelle, qui est l'apprentissage par intégration. C'est quoi l'apprentissage par intégration? Eh bien, je vais partir de ce qui est fondamentalement prioritaire et d'intégrer des éléments qui vont progressivement rendre plus complexe la tâche, tout en maintenant un caractère global. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous inquiétez pas, le schéma va bien le présenter. Si vous savez la différence entre la flexibilité, en particulier du système nerveux, et la plasticité, eh bien la flexibilité, vous prenez un élastique, vous le tirez, il revient à sa situation d'origine dès que vous avez fini de le solliciter, ça s'appelle la flexibilité, et le muscle est flexible, puisque vous pouvez l'étirer, et il va revenir à sa position d'origine, sauf si, évidemment, il y a un tendon qui est cassé. Par contre, la plasticité, c'est quoi? Vous prenez une boule de pâte à modeler, qui est ronde, vous l'écrasez, elle devient plate, et bien quand vous avez fini de l'écraser, elle reste dans sa position finale. Donc la différence entre la flexibilité et la plasticité repose sur cette différenciation. Eh bien, moi, ma méthode, c'est d'intégrer à une boule de pâte à modeler une deuxième boule, mais j'en vais en faire qu'une seule. En d'autres termes, je vais partir de la coulée ventrale. De cette coulée ventrale, je vais rajouter des battements. Eh bien, au lieu de dire il y a la coulée ventrale plus des battements, eh bien, ça va devenir une nouvelle tâche qui est coulée ventrale plus battement devient une nouvelle situation qui, évidemment, est plus complexe que la coulée et qui est de nouveau une situation en tant que telle. Et donc, je vais construire la problématique de l'apprentissage du crawl sur cette logique, c'est-à-dire, je vais partir d'une situation qui est la coulée ventrale, je vais arriver au crawl, et pour arriver au crawl, qui est ma 18e étape, eh bien, je vais construire des étapes progressives dans lequel, systématiquement, je repars de cette coulée ventrale. Alors, évidemment, je répondrai à vos différentes questions par rapport à cette logique. Quels sont les paramètres que je propose pour construire la logique de l'apprentissage du crawl? Alors, dans cet ouvrage, je les présente, c'est-à-dire... J'appelle action une situation pédagogique. En gros, la coulée ventrale, c'est quoi? C'est une action que je propose à l'élève. Je lui demande de faire une coulée ventrale. J'appelle ça une situation pédagogique. Vous pouvez appeler ça un exercice, vous pouvez appeler ça autrement, ça ne me dérange pas. Moi, je l'appelle comme ça. Quels sont les objectifs que je vais proposer à cette situation pédagogique? Eh bien, l'objectif, c'est quoi? C'est le but pour l'enseignant et c'est l'intérêt pour l'élève. C'est-à-dire que moi, je sais où je vais, mais l'élève doit savoir aussi pourquoi il réalise cette situation pédagogique. En quoi il y a une transformation? Je rappelle qu'un apprentissage, c'est une transformation. En quoi il y a une modification du comportement qui est sollicité par l'action? Eh bien, je vais expliquer à chacune des situations pourquoi je propose cette situation et pourquoi quelles sont les transformations réalisées par l'élève lorsque je mets en place cette situation. Alors, les consignes. On a systématiquement des consignes générales, qui sont les exigences d'exécution, et on a des consignes respiratoires. Vous verrez qu'au début, la consigne respiratoire est l'apnée. Je vous rappelle une chose que vous savez peut-être, mais tout le monde ne le sait pas, c'est que chez le débutant, l'apnée est la meilleure solution pour pouvoir s'équilibrer. Pour une raison très simple. Si je demande à un débutant de se mettre à l'horizontale ou de faire une coulée, et que je lui demande de souffler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couler. Puisque, vous le savez, l'équilibre de la flottabilité du corps humain est lié à une cage thoracique remplie. Si je suis en apnée inspiratoire, je flotte. Si je souffle, si je suis en apnée expiratoire, je coule. Donc, quand vous demandez à un débutant qui cherche qui a peur de descendre sous l'eau, qui pense que l'eau, ça aspire vers le bas, ce qui est évidemment faux, et qu'en plus, vous lui demandez de souffler, vous le mettez dans une situation tout à fait défavorable. Donc, je rappelle que l'apnée inspiratoire est la bonne solution. Par contre, quand je veux apprendre à nager le crawl, il va bien falloir avoir des exigences respiratoires. L'évaluation, comment je vais évaluer si la situation est bien réalisée ou pas, quelles sont les modalités de contrôle pour l'élève et pour moi. Et enfin, et ça c'est une situation extrêmement importante, la notion d'automatisation, c'est que malheureusement, et ça a été dit dans la définition de l'apprentissage, ne peux pas réaliser un apprentissage spontané pour apprendre le crawl. Je dois répéter. Ça veut dire que, pour le dire d'une manière très très simple, pour enfoncer un clou, c'est très rare de taper qu'une fois avec le marteau. Eh bien, le fait d'enfoncer un clou progressivement en tapant plusieurs fois ou en tournant une vis plusieurs fois, c'est comme ça que je vais réaliser l'action. Eh bien, l'automatisation, c'est à partir du moment où j'ai répété, je stabilise et je suis capable de ne pas y penser lorsque je réalise mes actions. Lorsque vous êtes obligé de penser à ce que vous faites, vous dépensez une énergie très importante. Et en plus, vous n'êtes pas disponible pour le reste. Quand vous apprenez à conduire, je pense que votre génération, vous êtes à peu près dans le passé, dans le présent ou dans le futur, dans cette problématique-là, eh bien, une demi-heure de conduite chez un débutant, c'est une fatigue monumentale, alors que chez un conducteur professionnel, c'est trois fois rien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on est extrêmement attentif et qu'on n'est pas encore dans des modes automatiques, on est dans des modes contrôlés. Alors, si je reprends maintenant chacun des éléments que je viens de vous présenter, l'action que devra réaliser l'élève correspond à la situation pédagogique définie par l'éducateur. En d'autres termes, moi, enseignant, je propose une situation pédagogique et l'élève va la réaliser. C'est donc la tâche proprement dite dans sa globalité qui prend en compte les éléments qui ont été intégrés. En d'autres termes, quand je demande de faire une coulée ventrale, eh bien, je vais présenter la définition, je vais expliquer de quoi il s'agit, et ensuite l'élève va la réaliser. Là, je reprendrai ça dans la conclusion de la deuxième partie, là où c'est un peu artificiel, c'est que quand je propose une situation qui est déjà connue, de Florentin en l'occurrence, qui va réaliser les différentes actions, on est dans une situation un peu artificielle dans la mesure où dès la première fois, il le réalise correctement, à part quelques situations qu'on a dû reprendre. Mais alors que chez l'élève, ce n'est pas du tout comme ça. Chez l'élève, Vous lui demandez de faire une coulée ventrale, il va relever la tête. Vous lui demandez de pousser avec les jambes, il va le faire en oblique, etc., etc. Et donc, vous allez reprendre jusqu'à la réalisation correcte. Donc, la situation pédagogique est définie en termes d'action à réaliser. Les objectifs. Le but pour l'enseignant, c'est la justification du choix de sa situation en termes d'objectifs plus ou moins concrets. C'est-à-dire que lorsque je fais de la didactique, ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire que j'explique à des enseignants des choix que j'ai réalisés moi-même, eh bien, je suis dans la justification de pourquoi j'ai réalisé cette situation. Et si vous avez des questions tout à l'heure, ce sera avec plaisir pour aborder la problématique des buts pour l'enseignant. Mais l'élève n'a pas besoin de savoir, quand le prof de maths est en train d'expliquer un théorème, il n'a pas besoin d'expliquer aux élèves ce qu'il a, lui, derrière la tête. L'objectif, c'est que les élèves comprennent. L'intérêt pour l'élève, celui-ci doit être convaincu de la nécessité de la tâche proposée pour acquérir l'habileté motrice, c'est le facteur motivationnel. L'élève ne fait rien gratuitement. Si vous lui proposez des situations en lui disant « à la fin, tu sauras nager le crawl », rien que ça est une source de motivation parce qu'il a des copains qui savent le nager, etc. Eh bien, l'objectif, c'est de le motiver en lui présentant les différentes situations comme étant des situations qui vont lui permettre d'acquérir un nouveau savoir et qui lui permettra, à la fin, de nager le crawl. Sur le plan pratique, il faut prendre garde à ne pas aller à l'encontre des intérêts de l'élève en proposant des situations trop simples. Lorsque vous proposez à un élève des choses trop simples, eh bien, il va s'ennuyer, et c'est le cas de certains élèves en classe. Ou au contraire, si les situations sont trop complexes, à ce moment-là, il n'y arrive pas, il se décourage. Donc tout le problème, c'est d'arriver, évidemment, à mettre en place des situations adaptées au niveau de l'élève. Je rappelle une chose très importante, c'est qu'ici, je fais de la didactique et pas de la pédagogie. La pédagogie, ce serait d'avoir une classe et d'apprendre le crawl à une classe de 20 élèves ou de 25 élèves. Là, ce n'est pas du tout de ça qu'il est question. Là, c'est de la didactique, c'est-à-dire j'utilise un seul élève et la problématique est proposée pour un seul élève pour comprendre la logique. Après, si vous avez compris cette logique, vous utilisez ces éléments didactiques à des fins pédagogiques avec une classe. Mais d'abord, est-ce que vous savez réaliser cette situation? Alors, la transformation, c'est ce qui est attendu après avoir mis l'élève en situation, ce qu'il transforme positivement son comportement. Je ne sais pas faire quelque chose, je me mets en situation et maintenant je sais le faire. Eh bien, j'ai donc transformé mon comportement, c'est la définition de l'apprentissage, et grâce à ça, eh bien, je vais être dans la situation d'être capable de réaliser un nouveau comportement que je ne savais pas réaliser. C'est donc ce qui différencie dans son comportement ce qu'il faisait avant de ce qu'il fait après avoir effectué la tâche proposée. Alors les consignes. Les consignes que donne le maître à l'élève doivent être définies précisément en rapport avec les critères d'évaluation de la tâche. Une consigne doit être réalisable. Vous ne pouvez pas dire « fais comme tu veux », parce que ça ne veut rien dire, mais vous devez proposer une consigne qui est réalisable. Et la consigne doit être réalisée effectivement, c'est-à-dire que si vous demandez aux élèves de faire quelque chose et vous ne regardez pas ce qu'ils font, eh bien ça pose énormément de problèmes. Ça veut dire que la consigne doit être réalisable, elle doit être réalisée, et une bonne consigne doit être contrôlable, c'est-à-dire je dois avoir les critères qui me permettent de vérifier que la consigne est respectée. Donc la consigne doit contenir des éléments d'évaluation en termes les plus objectifs possibles, et la consigne doit être contrôlée, comme si l'arbitre qui interdit d'anticiper une prise de relais ne regardait pas la réalisation de celui-ci, ça veut dire que la logique d'une consigne, c'est qu'elle est réalisable, réalisée, qu'elle est contrôlable et qu'elle est contrôlée. Donc, la notion de consigne est extrêmement importante dans la démarche de l'apprentissage. L'évaluation par l'élève de la réussite de l'action correspond à la prise de conscience qu'il a de son action motrice en rapport avec les exigences d'exécution. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il peut y avoir des décalages entre une consigne, la réalisation et ce que fait l'élève, et l'élève doit donc être capable de prendre conscience de ce qu'il a fait. Combien de fois, prenons un cas très particulier qu'on a bien étudié avec Olivier, le problème de la brasse dissymétrique. Vous demandez à 9 nageurs sur 10 qui ont une brasse dissymétrique, est-ce que tu sais que tu as une brasse dissymétrique ? 9 sur 10 vous disent oui, parce que ils ne savent pas la corriger, mais ils savent qu'on leur a déjà dit qu'ils avaient une brasse dissymétrique. Mais il y en a 1 sur 10 qui n'est même pas conscient qu'il a un problème de dissymétrie. Alors c'est un cas très particulier chez vous, évidemment, vous avez de nombreux profs qui ont pu vous donner un certain nombre de retours, mais très fréquemment, la natation fait partie des apprentissages spontanés. En d'autres termes, si on vous demande à l'ensemble des étudiants qui sont dans la salle combien ont reçu un apprentissage pour apprendre le crawl, pour apprendre la brasse, pour apprendre le dos, pour apprendre le pas, pour apprendre la culbute, eh bien, un certain nombre vont vous dire « Non, moi, j'ai fait comme ça, et puis petit à petit, on m'a corrigé, j'ai regardé mes copains, etc. etc. » Donc, on a très fréquemment en natation, mais il y a d'autres disciplines où c'est un peu pareil, des acquisitions qui ont été réalisées spontanément par observation. Et donc, du coup, je n'ai pas souvent d'évaluation de la manière dont je réalise moi-même mes différentes actions. Un pédagogue n'a pas le droit de dire « mon élève a réussi, je passe à un autre exercice ». Il doit vérifier que l'élève ait pris conscience de sa réussite, au risque qu'au prochain essai ne réussisse plus. Combien de fois, à un moment donné, je sais faire quelque chose, je reviens la semaine suivante, je ne sais plus le faire. Ça veut bien dire que cette acquisition n'a pas été stabilisée et souvent elle n'a même pas été prise en conscience de la réalisation correcte de ce que j'ai réalisé. Donc cette réussite doit être accompagnée d'une stabilisation dans des conditions légèrement différentes, c'est-à-dire que à partir du moment où j'ai réussi cette situation dans une situation X, eh bien je vais la proposer dans une situation Y, à une vitesse un peu plus élevée, à une vitesse un peu plus faible, à une distance un petit peu plus longue, etc., etc., pour pouvoir progressivement stabiliser ces acquis. C'est ce qu'on appelle l'automatisation, j'y reviendrai. Quelle peut être la meilleure motivation pour l'élève que la réussite perçue de la première action ? Moi, je crois que c'est l'idéal, c'est justement de réussir. Et des anciens chercheurs ou pédagogues, comme Piaget par exemple, montraient que réussir pour comprendre, c'est parce que j'ai réussi que je comprends, et non pas l'inverse. C'est-à-dire pendant très longtemps, on a appris à écrire, on a appris à lire, etc., par des méthodes analytiques. Or, la psychologie de l'enfant, et en particulier les travaux de Piaget, ont bien montré qu'on était plus dans la réussir pour comprendre et non pas comprendre pour réussir. On est dans cette logique-là. Enfin, la phase d'automatisation, la première réussite de l'action n'entraîne pas pour autant la capacité de reproduire celle-ci, même très proche de celle de la situation initiale. Donc ce n'est pas parce que j'ai réussi une fois que je suis sûr de pouvoir le réussir systématiquement. Donc celle-ci, la réussite de l'action doit évoluer. Il est important de doter la performance des automatismes nécessaires à la réduction de son coût, et c'est la définition que donne Jacques Paillard, qui la libère des mouvements superflus, du bruit de fond que les tensions parasites y introduisent. C'est quoi l'automatisation ? C'est la capacité de faire sans réfléchir. Je vais prendre un exemple très très simple. Tout le monde, depuis ce matin, sinon vous ne seriez pas là, a respiré. Ok ? Heureusement pour vous, heureusement pour nous. Sauf que, je crois, à peut-être une exception près, je ne sais pas qui, personne n'a pensé à respirer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la respiration est une modalité automatique. Sauf que, qui différencie le stéréotype de l'automatisme ? c'est que si je vous demande d'arrêter de respirer provisoirement pendant 10 secondes pour faire une apnée, tout le monde est capable de le faire. Ça veut dire que vous pouvez jouer sur votre respiration alors même que c'est un mode automatique. Si je vous demande d'arrêter votre battement cardiaque, vous n'y arriverez pas, heureusement pour vous. Si je vous demande d'arrêter de respirer, vous pouvez. Donc on est sur certaines modalités, des modalités qui fonctionnent tout à fait normalement, dans lesquelles je peux jouer sur des modalités différentes, conscientes, contrôlées ou automatiques. Eh bien, l'avantage du fait que vous n'avez absolument pas réfléchi à respirer, eh bien, c'est que c'est fait parfaitement bien et la respiration est extrêmement bien adaptée. Mais si vous nagez, vous êtes obligé dans un premier temps de contrôler la respiration pour la coordonner avec les actions locomotrices en papillon, en brasse, en dos, en crawl. Et donc, la respiration, c'est le propre de la logique de l'automatisme, c'est pour ça que je prends cet exemple, eh bien, je suis capable de la contrôler, mais l'objectif, c'est de nouveau de la rendre automatique. Le nageur qui performe est capable de respirer d'une manière automatique, il est capable de réaliser ses actions motrices d'une manière automatique, il est capable de ramener ses bras d'une manière automatique. En plus, la diminution du coût attentionnel, c'est-à-dire le fait de libérer la respiration de l'attention, de ne pas être obligé de contrôler sa respiration, libère aussi le canal de traitement pour d'autres opérations de surveillance. En d'autres termes, dès que vous rentrez dans un modèle automatique, eh bien, ça vous permet, par exemple, de contrôler vos adversaires, de contrôler le virage, la distance du mur, de contrôler votre fréquence, etc., etc. Alors, si je reprends sur les propositions que je vous fais, eh bien, dans la présentation de chacune des fiches, il y aura une logique sur l'action, sur les objectifs, sur les transformations, sur les consignes, sur l'évaluation et sur l'automatisation. Et à chaque fois, je reprends ce que je viens de vous dire. Et donc, dans la fiche et les fiches que je vais vous présenter, on reviendra sur ces différentes problématiques. Alors, revenons maintenant à la fiche 15 que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici, il s'agit d'une illustration qui n'est pas présentée sous cette forme-là. Donc, on a l'action qui est réalisée, définie avec des mots, les objectifs, les transformations, les consignes générales et les consignes respiratoires, qui sont le quatrième modalité de consigne, l'évaluation et l'automatisation. Donc, à chacune des 15, des 18 situations que je vous présente, il y aura systématiquement la définition de l'action, la définition des objectifs, transformation, consigne générale, consigne respiratoire, évaluation, automatisation, et systématiquement une illustration. Tous les dessins qui sont réalisés ici sont des dessins en 3D qui ont été construits avec les techniciens donc de la maison d'édition pour pouvoir justement réaliser des maquettes de nageurs donc qui représente la situation que je vais vous présenter tout à l'heure en réalité. Alors, la logique générale de l'apprentissage du crawl. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la logique consiste à intégrer une action motrice complémentaire à une tâche ou situation motrice déjà réussie, par exemple intégrer le battement à une coulée ventrale. Par exemple, si la première situation de référence est la coulée ventrale, c'est la fiche apprentissage de la natation du crawl, de la nage crawl, situation 1, c'est la fiche 1. Dans la situation suivante, fiche apprentissage de la nage crawl numéro 2, consistera à intégrer la réalisation de battement de jambes à la situation de coulée ventrale précédente. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la logique de la pâte à modeler, je pars d'une situation 1 dans laquelle j'intègre une composante supplémentaire qui devient donc une situation nouvelle. Quelquefois, la logique d'intégration laisse la place à une logique en réorganisation parce qu'on ne peut pas systématiquement intégrer une nouvelle dimension. Donc de temps en temps, il y a une petite réorganisation. Par exemple, alors que la situation 13 propose une propulsion alternée à partir d'un rattrapé arrière, la situation suivante, 14, propose une réorganisation du rattrapé, mais cette fois-ci en mode avant. Dernière logique de cette proposition concrète de l'apprentissage du crawl. Concrètement, notre démarche s'appuie sur une suite d'intégrations de situations pouvant être indépendantes. Ça veut dire que vous prenez la situation 14, vous pouvez l'utiliser en tant que telle. Vous n'êtes pas obligé de l'intégrer à une dimension. Moi, j'ai choisi une modalité d'intégration en 18 situations pédagogiques, mais vous pouvez très bien prendre la 12 et l'utiliser en tant que telle pour résoudre un problème chez un élève qui sait déjà nager et qui a un défaut caractéristique. Un des objectifs est de donner à chacune des fiches pratiques d'apprentissage un caractère global pour qu'un enseignant, un entraîneur, un éducateur, un parent, un nageur ou un étudiant, bien sûr, mais pour vous, je vous appelle éducateur, et même un nageur s'il est adulte, puisse réaliser ou faire réaliser les exercices proposés fiche par fiche. C'est-à-dire que si vous reprenez ces différentes fiches, et ça vous les aurez sous une forme papier ou une forme vidéo, vous pourrez vous les approprier, ça, il n'y a aucun problème, eh bien, vous pouvez très bien aller à la piscine, mettre en place une situation pour des élèves, pour votre frère ou pour vous-même, à partir de cette situation. Au total, à partir de la situation de référence de la coulée ventrale, c'est-à-dire la situation 1, notre proposition se réalise par l'intégration de nombreuses situations structurées par 18 fiches pratiques d'apprentissage de la nage crawl spécifiques ou variées. Comme ces fiches d'apprentissage sont volontairement simplifiées, il est bien sûr recommandé de compléter les acquisitions réalisées par des adaptations proposées par les 50 fiches de correction technique relative à la nage crawl. Je vous rappelle qu'il y a 18 fiches d'apprentissage et il y a 50 fiches de correction technique. Évidemment, à un moment donné, rien ne vous empêche d'aller chercher une fiche de correction technique pour être dans cette problématique. Cette démarche d'apprentissage de la nage se retrouve de la même manière pour la procédure d'apprentissage par intégration dans la logique de l'apprentissage du départ en crawl ou dans la logique de l'apprentissage des virages en crawl.